Un voyage vers Mars en compagnie de deux invités prestigieux et beaucoup d'histoires au programme de ce nouvel épisode d'Opening Weekend. On est en direct de l'UGC La Défense, c'est parti.
Débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler.
DiCaprio peut me dire merci.
C'est hyper beau le cinéma.
On a affiché complet partout.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
Des gens âgés qui mettent des lunettes.
Ils arrivaient à faire une estimation
comme des observateurs du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à l'UGC Ciné-Cité La Défense et on les remercie de nous accueillir pour la deuxième semaine consécutive avec cette fois-ci deux auteurs d'un film que je vous encourage dès maintenant à aller voir. Il s'agit du film Mars Express et nous avons évidemment le plaisir d'être en compagnie de Jérémy Perrin et de son co-scénariste Laurent Sarfati. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là dans Opening Weekend. On va évidemment revenir sur cette aventure incroyable qu'a été la création de ce film de science-fiction qui fera date, Mars Express. Et pour en parler autour de cette table, ainsi qu'évidemment de tous les chiffres à retenir de ce week-end, j'ai le plaisir d'être avec Arthur. Salut Arthur.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Salut Julien.
Bonjour tout le monde, bonjour messieurs.
Salut Charlotte.
Salut Aurélien, bonjour à tous.
Et salut Max.
Bonjour.
Voilà, je le disais, on est là et on est bien ici dans ce grand cinéma parisien pour cette avant-première. Alors c'est un soir un peu particulier pour vous parce que là vous venez je crois de la Cinémathèque où vous y allez juste après, c'est ça aussi?
On y va après, ouais.
Vous y allez après?
Là on va faire l'intro, l'ouverture de la séance de l'avant-première à La Défense et ensuite on se barre, vite on va à la Cinémathèque de l'autre côté de Paris et on fait les questions-réponses devant un autre public, quoi.
Et la séance affiche déjà complet ce soir à La Défense, ça doit être le même cas d'ailleurs à la Cinémathèque. Il faut dire que ce film arrive après une longue déjà, non seulement gestation, mais aussi période d'avant-première, si j'ose dire, avec d'avant-première prestigieuse, avec une première présentation à Cannes au cinéma de la plage, et puis après à Annecy, où à chaque fois ça a été un accueil dithyrambique. Qu'est-ce que vous retenez justement de ces toutes premières projections?
Bah, pour ce qui est de Cannes, moi j'avais l'impression que le film, j'ai pas très bien compris ce qui nous arrivait, pour tout dire. C'était vraiment un vœu du distributeur GBK et du producteur Everybody on Deck d'y aller, pour le côté, j'imagine, c'était pour positionner le film en réalité, c'était pour lui donner une aura plus grande que simplement celle du cinéma d'animation, voilà, et le placé comme un vrai film en fait. Enfin bon, il y a des guillemets dans ce que je viens de dire.
Oui, on comprend. Mais voilà. C'est vrai que c'est pas facile en France d'arriver avec un film d'animation. Alors on a tendance à cataloguer animation adulte, mais en réalité ça veut rien dire. Et c'est vrai que quand on voit ce film, on a étrangement l'impression de ne pas être devant un film d'animation, en tout cas comme c'est le cas devant les grands films d'animation qu'on pourra citer plus tard, mais que ce soit Ghost in the Shell ou autre, quoi.
Merci beaucoup. Pour le coup, j'adore les dessins animés, hein, donc qu'on voit que ça soit un dessin animé, ça me va aussi très bien, mais c'est vrai que c'est un retour qui nous est souvent fait j'avais l'impression que c'était plus un dessin animé au bout d'un moment, ouais. J'ai oublié, et en fait effectivement je le prends comme un compliment, c'est-à-dire que le filtre dessin qui d'habitude se place entre les spectateurs et les dessins animés disparaît et paraît ne plus gêner les spectateurs qui sont pris par l'histoire à mon avis avant tout et par la mise en scène potentiellement.
Laurent ?
Ouais, sur le festival de Cannes, il y a carrément des retombées très importantes, ne serait-ce que d'avoir sur notre affiche le sticker Festival de Cannes, de l'avoir au début du générique. Et à l'international, systématiquement, quand on parle du film, ils parlent de sélectionner au Festival de Cannes. Par contre, l'accueil qui a été fait matériellement sur place, c'était pas glorieux. On sentait qu'on était un film d'animation et pas un vrai film. Et il y a vraiment, on était en seconde classe, quoi.
Bah surtout au cinéma de la plage, bon, c'est un peu un lot de consolation presque, même si le film aurait à mon sens mérité une plus belle exposition encore. Mais c'est vrai que le sticker a toute son importance là au moment de cette sortie. On a oublié d'ailleurs, et c'est un oubli qui va être vite réparé, de mentionner que bien sûr c'est GBK qui vous accompagne tout au long de cette sortie. Ils sont intervenus à quel moment d'ailleurs, GBK?
Je dirais assez tôt en fait. fait, parce que l'investissement d'un distributeur participe à l'élaboration du budget du film. Hein. Il y a une participation au budget, donc c'est arrivé assez tôt. Je devais être en train de faire le storyboard à ce moment-là, donc il y a déjà 3 ou 4 ans, je ne sais plus bien, parce que j'ai perdu toute notion du temps depuis. Mais c'est ça, ça arrive très tôt. Et après, le lancement de leur travail à eux, par contre, se fait vers la fin de fabrication du film. Enfin, il y a déjà des idées qui sont lancées, etc. Mais le vrai coup d'envoi se fait, ça a commencé peut-être à 6 mois de la fin de la production, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est quelque chose dans ce genre-là.
La première fois que j'ai... après, moi, je suis scénariste, du coup, je ne suis pas du tout du côté production. Mais la première fois que j'ai vu le nom GBK, c'est quand il a été question de faire une affiche.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, je les avais déjà rencontrés avant.
Ah,
en fait, pour tout dire, on les avait rencontrés au Cartoon Movie à Bordeaux quand on a fait cette présentation du teaser. Donc, c'était déjà un moment de départ de deal. Mais c'était pas Valérie à ce moment-là. C'était encore Marc, si je ne dis pas de bêtises, et qui a passé le relais.
Ce qui veut dire qu'il y a d'abord eu un teaser avant qu'il y ait le film. Le teaser a permis de monter le film derrière.
C'est ça, c'était l'intention. C'est un truc qui se fait souvent en animation. C'est qu'on fait un court extrait avec une image définitive pour montrer un petit peu les intentions esthétiques, d'ambiance et tout. Rarement de scénario. Le scénario, on le raconte sur scène en même temps qu'on diffuse, avant qu'on diffuse l'extrait. Et là, on avait quelque chose comme 12 minutes. Il y avait 10 minutes de storyboard sous forme d'animatique. L'animatique, c'est un storyboard monté, donc avec déjà des bruitages et un montage, etc. Et d'un seul coup, il y avait quelque chose comme une minute ou deux d'animation terminée, quoi. Et c'était une séquence déjà du film et qui est toujours dans le film. Hein. D'ailleurs, on n'a pas fait d'animation inutile. Tout ce qu'on a produit a servi. C'était cette séquence où Aline poursuit Roberta Williams sur un rebord de fenêtre d'hôtel sur Terre et manque de tomber, enfin fait une espèce de saut de la foi pour la rattraper d'un immeuble à l'autre. Voilà, c'était cette séquence-là qui était un peu trompeuse par rapport à l'ambiance générale du film, mais ça nous plaisait aussi de ne pas trop en révéler.
Et qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Parce qu'on peut se rappeler, on peut rappeler quand même que vous venez plutôt de la série animée. Hein. Vous avez été très connu pour Last Man. Donc il y a déjà des fans autour de cette table, que ce soit Max ou Arthur. Est-ce que le fait de passer au long, c'était sur un long, en plus ambitieux comme ça, ça a pu freiner certains producteurs ou la façon dont... Est-ce que ça s'est fait naturellement ?
Oui, ça s'est fait naturellement au sens où j'ai imposé de faire un long métrage.
D'accord. Donc c'est vous qui avez proposé, on n'est pas venu vous chercher, c'est vraiment vous qui avez proposé le projet.
C'est un mélange des deux, c'est-à-dire que le producteur de Last Man, c'est le même que sur Mars Express, c'est Didier Crest. Et à la sortie de Last Man, comme ça avait été un succès, cette saison 1, il m'a proposé de faire une saison 2, ce qui m'a pas tout de suite... Enfin non, j'ai dit non en gros, j'allais faire des circonvolutions, mais là, je fais non. Et du coup, il m'a dit, ouais, bah alors peut-être un long métrage Last Man, comme ça on change de format, ça va te ressourcer et tout. J'ai fait... Bah ouais, mais non, en fait, ouais, un long métrage, mais pas Last Man, parce que j'avais en fait déjà passé 3 ans là-dessus sur cette saison 1 ou plus, je sais plus. Et puis, c'est un univers qui m'appartenait pas complètement. C'était aussi une adaptation, certes, assez libre de la BD du même nom, mais malgré tout, il y avait toujours des contraintes de respecter certains personnages, etc., qui me semblaient pas m'appartenir complètement. Bref, en tout cas, je voulais aussi simplement changer d'air et me renouveler. Et donc, on a proposé plutôt de faire, donc, oui, un long métrage, mais de science-fiction et qui ne soit pas une adaptation de quelques matériaux que ce soit. Et donc, avec Laurent, comme on avait déjà eu cette tentative de vouloir faire un film de science-fiction qui s'était avéré un échec auprès d'un autre producteur, on a relancé l'idée on veut faire de la SF. Et là-dessus, Didier nous a dit ok. Après, il fallait écrire le scénario, évidemment, on n'avait rien. Hein, mais...
Max.
Sur le lien avec Last Man, justement, désolé d'y revenir, mais là, donc, vous êtes la même équipe en réalisation et au scénario, le même producteur, il y a le même directeur artistique aussi, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et donc, pour vous, il y a quand même un lien dans la fabrication, dans l'élaboration du projet avec la série, dans la façon de travailler, dans la façon de le monter.
Oui, il y a même quelques studios en commun, hein, notamment Je suis bien content, et puis Tchak, qui s'est chargé de faire les décors, et qui était est également présent sur la saison 1 de Last Man. Dans la fabrication, il y a beaucoup de choses en commun, effectivement. De toute façon, il y a des techniques qu'on a, notamment avec l'animation 2D dessinée quoi, sur les personnages. On a récupéré tout le savoir-faire qu'on avait pu mettre en place sur cette série, toutes les méthodes et tout, en essayant de les pousser plus loin, évidemment. C'était ça aussi l'idée, et d'y adjoindre des nouvelles techniques, notamment, là, on a beaucoup plus de 3D que dans Last Man, où ça s'était résumé à des toutes petites choses comme ça pour tester. Mais là, on a vraiment poussé beaucoup plus loin tout ça. Pareil pour le format long métrage fait que le film est plus court que si on compile tous les épisodes de la série de la saison 1 ensemble, qui font quelque chose comme 5 heures ou 5 heures et demie, je sais plus, là où le film, là, lui, Mars Express, fait 1h25. Donc en plus, comme il y a ce prestige du cinéma, ça fait qu'on a des budgets un peu supérieurs aussi. Donc en fait, pour la même durée de prod, si vous voulez, on a plus de budget et moins de temps de métrage à fabriquer. Donc on peut peaufiner un peu plus les plans, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a semblé quand même plus agréable, bien que il y a quand même un problème à tout ça, c'est que c'est de la SF, et donc il y a beaucoup plus de design et de choses à prévoir et à penser qu'une série qui se passe dans des temps plus ou moins contemporains, même si c'est un monde un peu parallèle dans Last Man. C'est quand même voilà, des décors urbains un peu random ou d'aujourd'hui qu'on peut en trouver des références partout. Alors que sur Mars Express, bah, voilà, il y avait toutes les bagnoles à faire,
il y avait tout à créer, tout, ouais, un univers ça, à imaginer. Ça, on va revenir après. Laurent, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, alors effectivement, écrire un scénario de science-fiction, c'est un cauchemar, parce que tout doit être décrit. Oui. Et dans un scénario, je sais pas si tout le monde sait exactement comment ça marche, mais une page égale une minute. Mmh. Et quand on a chaque objet, chaque élément, chaque robot qui a une particularité, c'est une écriture qui est extrêmement dense, extrêmement synthétique. Mais par contre, malgré cette contrainte qui est quand même très, très grande, le confort entre écrire un long métrage et écrire une série, c'est la différence. C'est un marathon, une série, c'est incroyable comment c'est dense comme écriture. En plus, on est 6, 8 autour d'une table, ça sent la sueur, c'est vraiment laborieux. Et quand on est juste deux, c'est vraiment beaucoup plus proche de la rêverie que du travail.
Alors avant de retourner sur Mars Express, on va aller en express également du côté des US et du box-office international, puisque vous le savez, dans chacune de nos émissions, on revient sur ce qui se passe aussi à l'étranger. Peut-être même d'ailleurs qu'on parlera de Mars Express, je l'espère, prochainement. Julien, que s'est-il passé ce week-end ?
Alors ce week-end, aux US, le box-office a rapporté 113 millions de dollars versus 87 la semaine dernière. En particulier grâce à Hunger Games, bien sûr, qui a démarré... Alors on va dire gentiment avec 44 millions de dollars, c'est quand même moins 71% par rapport au premier Hunger Games qui lui avait ouvert à 152, moins 72 par rapport au deuxième, moins 64 par rapport au troisième et moins 57 par rapport au quatrième.
Mais est-ce qu'ils en attendaient autant que justement les quatre premiers ?
Alors c'est un démarrage à peu près au même niveau que Marvel's la semaine dernière. Au niveau des attentes, on va voir, je pense que... En France, ça a un petit peu mieux répondu. Je pense qu'ils le voyaient un petit peu plus haut. Je ne me souviens plus exactement des trackings.
Et le budget n'est pas le même que Marvel, ça aussi.
Le budget n'est pas le même. Les attentes n'est pas le même quand tu relances une franchise. Mais le fait est qu'il va aller vers une fin de vie autour de 115-120 millions de dollars. Ça veut dire qu'il terminera moins que n'importe quel opening des quatre films précédents.
Oui, c'est
et à l'international, il est à 98 millions de dollars.
Bon, bah écoute, on va suivre ça de près, mais c'est vrai que c'est un démarrage en demi-teinte, quoi, on pourrait dire, pour Hunger Games.
En deuxième position, on avait les Trolls, si je me trompe
pas.
Oui,
qui démarrait aux US après, longtemps après les Français.
Longtemps après, oui, il a ouvert à 30 millions.
Trolls 3.
Trolls 3, ouais. Alors le 2, on va pas trop en parler, puisque c'était la période du Covid, il était sorti en même temps en pivot. Mm. C'était un petit peu plus... Voire il était sorti directement en pivot.
Il était dans les salles. Effectivement, je sais plus, c'était...
Donc il a démarré à 30 millions. Le premier Trolls, il avait ouvert à 46. Alors c'est dans la lignée des élémentaires qui avait lui ouvert à 30. On avait quoi, Tortue Ninja, lui, il avait ouvert à 28. Ou Pat Patrouille, il avait ouvert à 22.
Plutôt encourageant ce démarrage de Trolls 3 aux US.
Donc plutôt encourageant, c'est ça, plutôt positif. Et donc Worldwide, il est à 108 millions de dollars. Ensuite, on a Marvels qui termine à Lui, alors il est à 65 millions, il a rajouté 10 millions.
Ce qui est pas beaucoup.
Non, il reste toujours dans les bas-fonds des classements du MCU.
C'est même la plus dure chute, je crois, de tout le MCU aux États-Unis pour un deuxième week-end.
C'est exactement, il est. Attends,
moins 79%, je crois.
Il est moins 77%.
Moins 77%. Attention, intervention de Jérémy.
Oui, c'est une bonne nouvelle, en fait. Je décrypte les informations pour les auditeurs.
Voilà.
Au revoir.
Merci, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez, bien sûr.
Et donc, qui est la plus grosse chute pour un film du MCU, puisque avant, c'était Quantumania, Ant-Man, qui avait perdu, lui, 70%.
Donc on l'a, et une année terrible pour les films de super-héros, parce qu'en dehors des Guardians of the Galaxy 3, qui avait à peu près marché, on peut quand même dire que Spider-Man, mais bon, dans le côté animation. D'animation. Mais en tout cas, dans les films de super-héros traditionnels, que ce soit Blue Beetle, que ce soit Ant-Man 3, ou que ce soit Flash, et là, et The Marvels.
Peut-être que les gens en ont marre.
Voilà, je vous laisse la conclusion.
Et donc, il a fait 10 millions ce week-end aux États-Unis pour son deuxième week-end. Il y avait un seul film qui avait fait moins, un seul film du MCU qui avait fait moins. C'était
Black Widow.
Black Widow,
pas
non,
du tout.
Je sais pas.
Non, c'était Hulk. Ah. L'incroyable Hulk qui avait fait, lui, 9 millions.
Au tout début du MCU, et qui était un peu le mauvais garnement, puisqu'il est,
on sait pas, c'est trop ça. Si on ne sait pas trop si on le met dedans, si on le comptabilise ou non. Ouais. Alors, en tout cas, au global, il est à 161 millions. Voilà, on va s'arrêter là sur The Marvels. Alors, on avait quoi d'autre comme petite surprise? Je crois qu'il y a Thanksgiving qui a lui aussi démarré au même niveau à 10 millions. Ouais. On attendra la sortie française. Max, c'est quoi la date?
C'est la semaine prochaine.
C'est le 29,
tout à fait, 29 novembre.
Et on avait un petit film qui se tient très bien et qui sortira, c'est en France, c'est Winter Break, aux États-Unis c'est Holdovers, qui a perdu que 4%, si je ne me trompe pas. Alors il a doublé son nombre de copies entre sa première et sa deuxième semaine, mais voilà, il y a aussi des petits films.
Le film d'Alexander Payne, précisons-le.
Exactement,
quand même.
Et qui sortira le 13 décembre en France.
Ouais.
Et qui démarre, comme je disais, ça démarre gentiment, mais ça, il tient aussi sur la durée. Donc les vies ne sont jamais les mêmes et les films ne se ressemblent pas. On a quoi d'autre sur le Worldwide? On avait toujours... Pardon Max, tu voulais intervenir.
Non, c'est Arthur, mais...
Là, on a le film Five Nights at Freddy's qui se maintient encore très bien sur son troisième week-end à l'international.
Et c'est pas tout, le Five Nights at Freddy's au niveau Worldwide, c'est le meilleur résultat pour un film d'horreur sur l'année 2023.
Oui, le film a dépassé Glass et devient le numéro 2 du studio Blumhouse, à voir, mais...
Ouais, avec 271 à Worldwide millions de dollars et 139 millions à l'international. C'est complètement fou pour ce film qui n'a pas coûté grand-chose.
Et on termine juste avec les films chinois.
Jérémy, une intervention.
Jérémy, attends, on va intervenir.
Et qui n'est pas bien, je crois.
Ah. En tout cas, il a engrangé les recettes rapidement et ça a chuté assez vite. En tout cas, c'était un vrai phénomène sur le moment, tirer des jeux vidéo, voilà. La jeunesse s'en est emparée. Et après, c'est vrai que ça s'est écroulé assez vite. On est d'accord pour le démarrage. Il aurait dû terminer largement au-dessus des 200 millions juste sur le sol américain. On retrouve un petit peu ce trend sur un peu tous les territoires.
Tu n'as pas parlé, Julien, du démarrage très mou de Next Goal Wins chez Searchlight, qui est attendu en France, je ne sais plus pour quand, mais en tout cas pour 27 décembre, merci Arthur. De Taika Waititi. Taika Waititi, donc, qui était très attendu, évidemment, parce qu'on attend toujours ses films. En tout cas, c'est un réalisateur très en vue du côté de Disney et qui démarre seulement à 2,5 millions. C'est en dessous des 2,7 millions que fait The Holdover, donc Winter Break en français, qui était à 2,7 millions alors que ce n'était pas sa sortie.
Alors que le film est porté par Michael Fassbender quand même, ouais, ce qui peut se noter.
Voilà, qui n'est pas pour l'instant en tout cas au top du top. Autre info, tu voulais dire Julien?
Ouais, juste terminer parce que c'est rare, on a un film italien dans le Worldwide.
Oui.
C'est Ancora Domani, qui est à 19 millions et c'est un vrai phénomène en Italie. Il est déjà à plus d'1,5 million, je crois qu'il va dépasser les 2 millions, en tout cas il va s'en approcher.
Plus gros succès depuis le début du Covid là-bas.
D'accord, oui. Donc c'est pour ça, c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de voir un film italien.
Exactement. Donc c'était pour le nommer. On a des films chinois, on a des films indiens et maintenant des films italiens. Voilà. Donc ça s'internationalise.
Côté Chine, toujours Last Suspect et Be My Family. Et côté indien, Tiger 3, dont on a déjà parlé dans une précédente émission. Voilà pour le petit panorama. Sans transition, maintenant, je voulais laisser la parole à Arthur qui voulait nous faire un point sur un élément marketing qui lui a tapé dans l'œil.
Ouais, je voulais vous parler des petites vidéos qu'on voit popper un petit peu partout en ce moment sur les réseaux sociaux qui sont utilisées par de plus en plus de distributeurs conjointement avec des agences pour faire la promotion des films, mais pas que, parce que c'est aussi utilisé pour faire la promotion de jeux vidéo ou de vêtements.
C'est vrai qu'on en a vu beaucoup là, avec la Tour Eiffel entourée avec l'oiseau de
Hunger
Games ou autre.
Des ducs, des Digital Users Content. Voilà, donc vous l'avez peut-être vu, Aurélien, comme tu l'as dit, avec la Tour Eiffel entourée par le logo d'Hunger Games, ou alors la bâche de Napoléon qui s'est dépliée sur l'Arc de Triomphe. Ou encore le Grand Rex.
Ah, intervention.
Bah, moi, je ne comprends même pas que la publicité ait si peu changé. On en est encore. Heureusement qu'il y a des nouveaux trucs, parce qu'on en est encore au niveau de la réclame. Ouais. Mmh. De tout début de la télévision. Alors oui, heureusement qu'ils arrivent sur Internet quand même.
La particularité du coup de ces petites vidéos, c'est que c'est en effet 100% digital. Donc il n'y a pas de production de bâche. C'est d'un côté un petit peu plus écolo. Et en fait, ces vidéos font beaucoup de bruit parce qu'elles sèment le doute dans l'esprit des viewers, comme on dit, et du coup ils se demandent si c'est vrai ou pas. Je vous rassure, non, il n'y a pas eu le logo de Hunger Games vraiment placé autour de la Tour Eiffel.
Mais il y a des figurants qui jouent pour faire croire
qu'ils sont devant,
c'est ça qui trouble en fait.
Ouais, absolument. Et puis je voulais vous parler aussi des dernières bandes annonces, des grosses bandes annonces qui ont été dévoilées ces deux dernières semaines. On commence tout de suite avec celle de SOS Phantom 2, La Menace de Glace, la suite de SOS Phantom, L'Héritage distribué par Sony, est sortie en 2021. La suite du reboot qui avait fait 620 000 entrées. Moi, j'ai une question pour vous. Ouais. C'est SOS Phantom, quel est le film de la saga ayant fait le plus d'entrées en France?
Oh là là, c'est une question pas évidente.
En France, il y a eu 4 films.
Ouais, je dirais le deuxième, moi.
C'est le premier, deuxième, L'Héritage, le reboot de 2021. Et il y a eu un autre reboot en 2016.
Ouais.
100% féminin qui lui arrive en dernière position avec 409 000 entrées.
Donc c'est le premier qui a fait quand même le plus.
C'est le premier qui a fait le plus en France. 2
millions. J'allais dire le 2, je me souviens, il est sorti en même temps que je crois Batman.
89, absolument.
Indiana Jones et la dernière croisade. Et donc c'était un peu plus la baston. Indiana Jones. En France, ça avait plus été Indiana Jones qui avait gagné face à Batman qui était le grand succès américain. Voilà, je ne sais pas pourquoi je me souviens de tout ça. J'étais au collège.
c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs.
C'est aussi peut-être par ordre de qualité des films, là, pour une fois.
Et on parlait de marketing. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette affiche de Mars Express qui, j'imagine, a fait aussi l'objet de beaucoup de discussions. En tout cas, elle tape dans l'œil directement et ça annonce tout de suite un blockbuster. Comment ça s'est passé, cette création d'affiche?
Ben oui, c'était ça. Enfin, moi, c'est vrai que j'étais parti au départ sur un truc beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus SF élégante, mon cul, élitisme, etc. Enfin, moi, j'aime ça, mais c'est vrai que c'est GBK qui nous a fait comprendre que, on va faire venir que les universitaires, voir le film, ils vont croire que c'est le nouveau Tarkovsky. Donc, voilà, j'ai entendu ce message et donc on est plus parti sur quelque chose qui évoque effectivement du divertissement grande échelle, blockbusterisant effectivement comme tu le disais. Et donc on est parti là-dessus, mais avec quand même comme idée de mettre des bizarreries quand même un petit peu dedans et donc de montrer ce visage coupé en deux, très orange, qui se voit de loin, je pense. Et puis là-dessus, effectivement, on a un petit peu appuyé le côté action, même si peut-être le film est... Si, il y a de l'action dans le film, mais c'est pas non plus son essence même. Et voilà, après, il y a eu tout un tas de dérivés et de discussions sur des détails, la proportion des personnages, enfin voilà, je vais passer les détails. Mmh. Et puis finalement, il y a aussi cette idée de faire un PLV qu'on voit là à côté de nous avec des diodes qui clignotent pour en plus attirer le regard des spectateurs et spectatrices qui passeraient par là.
Tarkovsky n'aurait pas approuvé.
Non, lui n'aurait pas fait ça. Mais bon, voilà, oui. En fait, après, c'est toujours des discussions avec chacun qui fait un peu un effort je mets la grosse tête orange bizarre, mais en même temps, on va mettre un mec qui tient un flingue. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est un peu... en l'occurrence, c'est pas tant le mec qui tient un flingue que la femme licorne dorée qui est sur l'affiche. À savoir, ce personnage, il apparaît dans 4 plans du film, quoi. Mais il est sur l'affiche quand même. Mais bon, j'ai accepté parce que ça fait un peu justement quelque chose que... On se dit, mais qui c'est ce personnage? pourquoi et tout. Et donc ça peut peut-être éventuellement attirer. Voilà, on n'a aucune morale. Hein, nous, on met tout ce qu'il
mais
faut.
On voit que c'est un métier quand même de faire ces affiches parce que effectivement, Jérémy, ton affiche, je la préfère mille fois. Elle est effectivement artistique, mais je suis sûr qu'on aurait eu beaucoup moins d'impact avec ton travail qu'avec ça.
Ça servira peut-être pour le steelbook ou quelque chose.
Ouais, oui, c'est ça. En fait, c'est ça. L'illustration que j'ai pu faire, elle a beaucoup plus des airs d'édition collector ou de trucs où les gens connaissent déjà le film et ils se disent « Ah ouais, je vois l'élégance, nanana. » Mais avant, quand on ne connaît pas le film, c'est peut-être un peu effectivement trop...
Alors justement, quand on ne connaît pas le film, il faut peut-être rappeler un peu de quoi ça parle, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent. On est en 2200 et on suit, on va dire, on est comme dans une sorte de buddy movie, ces films où on suit deux personnages. L'une est détective privée et l'autre est un partenaire androïde, qui n'était pas androïde avant, on le découvre dans le film, et qui sont embauchés pour... capturer une célèbre hackeuse. Est-ce que ça vous va si je dis
ça? Oui, on peut le résumer comme ça pour aller plus vite.
Il ne faut pas trop en dévoiler.
Tu as déjà un peu spoilé.
J'ai déjà un peu spoilé, un peu trop.
Ça va. T'inquiète.
Non, mais en tout cas, c'est pour dire qu'effectivement, on est tout de suite plongé dans un climat de science-fiction qui, moi, me rappelle vraiment le plaisir qu'on peut avoir quand on découvre un livre de science-fiction de K. Dick ou autre, où on n'a pas les codes tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà un panneau qui vous dit en quelle année vous êtes, comment ça va se passer. Qu'est-ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. Et c'est ça qui est vraiment fort d'entrée de jeu, c'est que vous n'annoncez rien, si ce n'est vous nous plongez, vous nous immergez dans cet univers.
Oui, c'était vraiment un objectif qu'on avait tout de suite avec Laurent, c'était de téléporter les spectateurs et spectatrices dans cet univers et presque démerdez-vous. Ouais. Il y a un côté, justement, alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, on met plein de petits détails, genre on connaît dans quelle année se passe le film, parce qu'il y a une date sur une tombe à un endroit, et donc on se dit, ah oui, d'accord, on est à cette année-là. Mais pareil, l'utilisation des technologies, elle n'est pas énoncée par les personnages, parce que pour nous, il nous semble évident qu'ils en sont familiers. Et donc, au même titre que nous, quand on prend un téléphone et qu'on envoie un texto, on ne dit pas à nos amis, j'envoie un texto. Enfin, voilà.
Mais c'est
on
ce
le
qui fait.
Fait
la jubilation qu'on a devant les images de ce film, et ce qui tranche avec beaucoup d'autres productions récentes ou autres, c'est qu'on on prend plaisir à décoder cet univers et à se dire « Ah ouais, mais en fait, là, est-ce qu'on est sur Mars ou pas ?» Et en fait, on comprend. Voilà, c'est dur de ne pas non plus vous en dire trop pour ceux qui n'ont pas vu, mais c'est hyper jubilatoire.
C'était vraiment notre pari, et c'est vraiment en réaction à une tendance terrible du cinéma actuel, et particulièrement de science-fiction, de tout expliquer en permanence. Et il y a ça, et aussi les choses complètement illogiques. Typiquement, le truc qui nous rend fou avec Jérémy, c'est les téléphones transparents. Les écrans transparents, c'est complètement idiot, on voit mal sur ces trucs-là. Et l'autre truc, c'est qu'on voulait complètement immerger le spectateur qui se retrouve avec une sensation d'exotisme complète en suivant des personnages qui, eux, sont dans leur quotidien. Et en même temps que les héros qui mènent une enquête, du coup, les spectateurs, ils sont obligés aussi de mener une sorte d'enquête secondaire pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Exactement, c'est pour ça qu'on a envie de le revoir dès qu'il se termine.
C'était le but, en vrai, on veut faire un film qu'on a envie de revoir.
Et moi, parce que j'adore revoir des films, et donc je pense qu'au moment où on est là à les créer, on se dit il faut qu'il y ait un intérêt à le revoir une deuxième fois, une troisième, etc. Et donc quand on a vu le film première fois, il y a des choses qui se passent dans l'écran et dans les plans la deuxième fois, au début du film, on se dit genre ah d'accord, il y avait déjà c'était déjà en place à cet endroit là d'accord, il y a déjà des indices, il y a déjà des trucs auxquels on fait pas attention une première fois, c'est pas possible quand on connaît pas le déroulé de l'histoire et où ça mène.
Et on se dit quand même plus d'une fois, mais ce serait génial si ça existait vraiment comme ça, ou ce serait étonnant, ou ce serait... on sent qu'il y a un travail aussi derrière de réflexion, c'est un peu comme au moment où on avait pu découvrir Minority Report ou ce genre de film, où il y a eu on est projeté dans le futur, quoi. D'ailleurs, tu voulais intervenir là-dessus peut-être, Arthur.
Le film dégorge d'originalité, mais j'ai retrouvé aussi quelques petites références à des grandes œuvres de SF, c'était du coup, j'imagine, fait... intentionnellement.
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a des trucs où on est passé par des idées qui étaient déjà connues, effectivement, mais qui nous semblaient pertinentes, donc on s'est dit gardons-les, je veux dire, ça fonctionne, je veux dire, les lois d'Asimov sur la robotique, on va pas en faire on va pas s'en passer, ça me semble cohérent. Effectivement, les villes futuristes terriennes où les immeubles s'empilent les unes sur les autres parce qu'il n'y a plus de place à la Blade Runner, ça paraît assez évident aussi.
Oui, on va faire ça, oui.
Et puis aussi, parfois, bon, évidemment, il y a des choses qui, il y a des références qui sont là parce que on est aussi complètement influencé, hein, évidemment, et que ça ressurgit même presque malgré nous à des moments. Il y a des choses qu'on a supprimées quand même où on se dit non là ça se voit trop ou c'est pas, c'est mal intégré quoi, ça fait vraiment le copier-coller.
C'est
à chaque fois,
mes idées.
On a, je sais plus, enfin bon, oui, mais.
Mais ce qui est étonnant, c'est vraiment aussi l'économie du récit. Le film, vous le disiez tout à l'heure, fait 1h25. C'est complètement fou quand on voit tout ce qui est raconté, en fait, tout ce qui est dit ou non dit d'ailleurs, mais qu'on devine. J'imagine qu'on dit souvent, hein, ce qui est plus dur, c'est de couper, ce qui est plus dur, c'est d'épurer. Ça a dû être un gros, gros boulot pour arriver à ça.
Et en même temps, c'est aussi un plaisir de couper des trucs. Hein, ouais. Parce que, comment dire, ça, en fait, le montage pour un dessin animé se fait avant sa fabrication, enfin, avant l'animation à proprement parler. Ça se fait avec le storyboard. Et donc, quand tu coupes une séquence, tu te dis « Ah, ben c'est ça de moins à animer, en fait. » Donc, c'est du boulot en moins. Donc, c'est quelque part, il y a aussi un plaisir de se dire « Ah, ben voilà, hop, je me débarrasse de ça. » Maintenant, c'est vrai que, malgré tout, il y a des trucs, on ne peut pas tout couper n'importe comment. Il faut rester quand même cohérent, que le scénario soit intelligible, que ce ne soit pas trop speed non plus. Donc, c'est ça la difficulté. Mais ça nous a... Alors, on y a été un petit peu forcé pour des raisons de budget, évidemment, parce que fabriquer des plans, ça coûte de l'argent. C'est une masse salariale parce que toutes les équipes sont là en permanence sur du long terme, sur une prod comme ça. Et donc, c'est des règles de trois un peu sommaires, mais qui permettent de se dire, bon, bah, si le film dépasse une heure et demie, ça va coûter tant, donc on ne pourra pas se le permettre vu le prix que ça commence à coûter le film. Et donc, voilà, j'ai resserré quelques scènes, j'ai enlevé quelques plans, j'ai supprimé deux séquences qui finalement s'avéraient pas si importante que ça pour la compréhension générale, donc voilà. Mais on m'a demandé de virer aussi certaines scènes et où j'ai dit non, là, pas là, ça, ça marche quand même, c'est important de le garder. Voilà, ouais. Donc c'est oui, c'est aussi un bras de fer.
Voilà. Ouais, ouais. Julien,
non, mais pour rappel, c'est vrai que c'est un budget, je crois, de 7 millions d'euros.
8,5.
En tout cas, c'est très rare pour les films d'animation, c'est très peu. Mais moi, ce qui, et en plus, c'est un film 100% français.
Oui. Oui, enfin, c'est très peu. Ça dépend dans quel, ça dépend du regard qu'on porte dessus. C'est-à-dire que dans le cinéma d'animation français 2D, c'est moyen. C'est entre, parce que la fourchette basse, c'est plutôt 4 millions. Et la fourchette haute, c'est plutôt 10-12. Et nous, on est à 8,5, donc c'est moyen. Mais par rapport à de l'animation américaine, là, on est très en dessous, effectivement. Les prods américaines d'animation, c'est 60 ou 80 millions, si c'est pas plus chez Pixar, encore. Mmh. Et pour exemple, mais c'est vraiment... Après, d'autres méthodologies, hein, qu'ils ont les Américains et les Japonais, mais par exemple, chez Ghibli, le dernier Miyazaki, c'est 30 millions d'euros, je crois. Ouais. Ou de dollars, je sais plus. Mais voilà. Mais après, au Japon, c'est spécial. Eux, ils ont des gros budgets, Ghibli. Donc voilà.
Et l'équipe, elle était composée de... Vous étiez combien, justement, à travailler en permanence?
Je dirais qu'en tout, on a dû être une centaine, mais on n'a pas tous travaillé en permanence pendant 5 ans et demi. Quand on dit que le film a pris 5 ans et demi à se faire, et c'est en parlant de la personne qui a commencé jour 1 et qui a fini dernier jour, en l'occurrence moi. Mais par exemple, Léa Drucker a travaillé 3 après-midi, une matinée, je crois. Donc voilà, c'est selon les métiers, selon qui fait quoi, il y a des gens.
Je parlais vraiment des animateurs. Mais, ouais. Oui.
Les animateurs, ça a été peut-être pendant un an et demi, deux ans, je crois. Après, certains animateurs ont multiplié les boulots et ont fait d'autres choses avant, genre certains ont été aussi créateurs de certains personnages ou ont fait un petit peu de layout posing. Bon, après, ça, c'est des métiers moins connus de l'animation, là. Mais voilà, ouais. C'est ça. Mais voilà, il y a certaines personnes qui ont pu comme ça un peu traverser la prod, mais l'animation a dû durer un an et demi, deux ans.
On ne l'a pas précisé, mais effectivement, Léa Drucker est au casting vocal, ouais, aux côtés de Mathieu Amalric et d'autres, quelques autres acteurs connus. Il y a beaucoup de choses à dire sur le film. Le temps avance. On va juste enchaîner, faire une petite pause et passer au box-office France avec Charlotte. C'est parti.
C'est hyper beau le cinéma.
On va attendre les chiffres impatiemment.
C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
Et accrochez-vous.
Alors oui, merci beaucoup Aurélien pour cette introduction. Donc le box-office France, peut-être que Julien veut dire un petit mot sur le marché.
Le marché, on va dire que c'est plutôt un retour à la normale, puisque cette semaine, ce week-end, on était à 2,4 millions d'entrées. Il n'y a plus de vacances, il n'y a plus de jours fériés. Alors ce qui est intéressant, c'est à regarder avec l'année dernière, c'est que l'année dernière c'était 2,2 millions, 2,3 millions, et ça correspondait au 16e meilleur résultat de l'année, alors que cette année avec 2,4 millions, on est le 25e meilleur résultat de l'année. Donc on va dire que c'est des signes positifs. Et puis évidemment, je vais te lancer avec Hunger Games, puisque c'est lui qui a boosté le marché cette semaine.
Absolument, Hunger Games, donc la sortie de Metropolitan qui cumule 502 000, presque 500 entrées à l'issue donc de son premier week-end avec 36 000 entrées en avant-première. C'est le 18e meilleur démarrage de l'année, près de En eau très trouble qui faisait 564 000 à l'issue de son premier week-end et Ant-Man qui faisait 588 000. En soi, par rapport aux autres Hunger Games, moi je trouve que c'est une déception moins grosse qu'aux US. C'est pas non plus la folie, disons, ils ouvrent pas très très gros, mais ils ouvrent gros aussi quand même. Mais par rapport au premier Hunger Games, on est à plus 23%, puisque le premier Hunger Games ouvrait à 439 000 entrées pour une fin de carrière à 1,7 million. Mais il est largement en dessous des autres Hunger Games, qui est par exemple moins 57% par rapport au deuxième de cet opus et moins 60% par rapport au troisième Hunger Games, qui finissait les deux à environ 3 millions. Il se situe au niveau des films pour adolescents et entre Divergente, qui faisait 384 000 à l'issue de son premier week-end et qui finissait à 1,5 million, et Le Labyrinthe, qui faisait 603 000 à l'issue de son premier week-end pour finir à 3 millions.
Ouais, lui qui avait eu une tenue juste incroyable, puisqu'en commençant à 600 000, terminé à 3 millions, c'était devenu lui aussi, il y avait eu un engouement sur le film, sur la durée.
Il va sans trop de doute passer le million et il finira, je pense, aux alentours de 1,5 million, 1,7 million. À voir après, peut-être, s'il se tient très très bien, voir ce que ça donne, puisque c'est bientôt les vacances. Donc on va regarder ça avec intérêt. Max ?
Parce que, moi, je trouve que c'est un très bon score pour le coup sur le film, sur un spin-off ou un prequel. Se dire que le film va aller chercher a priori le score du premier volet, je trouve que c'est vraiment une belle réussite, là où on a en général plutôt une perte de au moins 30% sur ce type de film.
D'accord, merci. En deuxième position se place donc Le Garçon et le Héron, la sortie de Wild Bunch, donc toujours merveilleuse sortie, puisque c'est la meilleure tenue de la semaine, hein, avec moins 34%. Et c'est le quatrième meilleur score pour un Miyazaki.
Pour l'instant.
Pour l'instant, évidemment, parce qu'on attend de voir ce que ça va donner. Il cumule ainsi 1 200 000 entrées, donc c'est très 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 bien. En dessous, beaucoup moins bien, la sortie de Disney, Marvel, qui va rajouter 162 000 à l'issue donc, de son deuxième week-end pour cumuler 530 000 entrées. C'est une vraie déception, hein, pour Disney. Et on pense que ce sera qu'il ne passera pas le million, très, très honnêtement. Je pense que ça va être très compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien.
Ça va être compliqué, effectivement. Pour l'instant, il est plutôt en route sur 800 000, 850 000 entrées. Les notes ne sont pas terribles. Donc oui, ça va être challenging. Est-ce que ça va être le premier Marvel à ne pas passer le million d'entrées ? Réponse la semaine prochaine.
Ça faisait longtemps que tu n'avais pas dit challenging.
Juste en dessous, donc en quatrième position, on retrouve Five Nights at Freddy's, donc toujours très bien, hein, pour un film de ce type, puisqu'il continue et il ajoute 161 000 entrées à l'issue de son deuxième week-end pour un cumul de 655 000 entrées. Donc c'est vrai que c'est très très bien, c'est le quatrième meilleur score pour un film d'horreur en 2023 et le neuvième meilleur score pour un Blumhouse, donc c'est vraiment très bien et... Il se rapproche un petit peu au bout de son dixième jour donc, d'exploitation d'Halloween qui finissait à 840 000 ou de la Nonne 2 qui finissait à 1 million. Donc moi, je pense à une fin de vie vers 900 000. Après, peut-être passera-t-il le million. Tu penses que ça va être difficile, Julien ?
Ça va être compliqué. Il est entre 800 et 900 000. Mais c'est vrai que pour revenir, je pense que c'est vraiment le film qui est une vraie porte d'entrée pour tous ceux qui découvrent les films d'horreur, pour tous les ados. C'est un premier film... qui peut en tout cas fonctionner.
C'est pas un carton assuré quand on sort un film d'horreur pendant Halloween ?
Alors là, c'est vrai qu'il y a eu cette période où, tu as raison, il y a eu La Nonne 2 qui a bien marché, derrière il y a eu L'Exorciste, il y a eu Saw et Five Nights qui avait fait une grosse vague d'avant-première pendant Halloween qui avait fait plus de 120 000 entrées. Donc oui, c'est vrai qu'il y a une vague, en tout cas sur les films d'horreur, qui est très positive. retour du Covid, ils avaient eu beaucoup de mal à se remettre en selle. Donc c'est vrai que les films d'horreur, il y a des vrais up and down qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et en ce moment, c'est vrai que c'est plutôt up.
Sur le film d'horreur, pour le coup, la question qui se pose souvent, c'est la question de la concurrence, notamment Halloween. Là, à Halloween, il y avait l'Exorciste de Dévotion qui était encore en salle. Il y avait Saw 10 qui venait de sortir. Et du coup, les avant-premières de Five Nights at Freddy's, elles étaient pas du tout, c'était pas du tout gagné qu'il fasse les scores qu'il a fait en avant-première pour Halloween.
Eh bien, du coup, on passe de l'horreur au biopic avec l'Abbé Pierre qui se situe en cinquième position, qui ajoute 150 000 entrées à son cumul de 505 000 entrées. C'est pas dingue quand même pour ce type de film, puisqu'il démarre, il est en dessous de Simone hein, à l'issue de son deuxième week-end, à 34% en dessous de Simone qui finissait à 2 millions, mais qui était un score magnifique et une tenue incroyable. Et on peut imaginer effectivement une fin de vie aux alentours de 800 000 entrées. Après, on va voir, parce qu'avec les scolaires, effectivement, comme le disait Tom, la semaine dernière, ça peut effectivement très très bien fonctionner. Ensuite, on a évidemment 3 jours max, qui évidemment continue très bien, qui se rapproche de la carrière de super-héros malgré lui, hein, qui finissait à 1,8 million. À voir s'il passe les 2 millions, c'est un peu la question qu'on se pose. Au niveau des autres démarrages, en 7e position, on a le film de Christophe Paratier qui fait 85 000 entrées à l'issue de son premier week-end avec presque 5 000 entrées en avant-première. C'est vrai que par rapport au film qu'a pu faire Christophe Baratier, c'est léger. Même si...
ça tient à cœur, pardon, je t'en fais Charlotte, mais je sais que les choristes tiennent à cœur.
C'est complètement le cas, c'est pour ça qu'on rigole de moi, parce que c'est un de mes films préférés, mais voilà.
Non, mais ça montre aussi la difficulté des films français qui sont tous sur des budgets à peu près de 6 millions, et il y en a eu beaucoup. Même les plus gros qu'on a pu voir avec, on en a déjà assez parlé, mais Une année difficile, Un métier sérieux, etc. Il y a beaucoup de films français aujourd'hui qui sont en dessous de leur potentiel, ou en tout cas du potentiel auquel on pouvait les attendre. Et preuve encore avec Comme par magie, qui est loin des scores attendus.
Oui, et puis c'est vrai que c'est bien aussi de voir un peu la carrière de Christophe Baratier qui a commencé un peu sur les chapeaux de roue et finalement qui a fait La Guerre des Boutons aussi, qui a bien fonctionné.
Je crois qu'on va avoir toute la carrière de Christophe Baratier.
En tout cas, Comme par magie se situe entre Outsider du même réalisateur qui avait fait une fin de carrière à 285 000 et Le Temps des Secrets qui avait fini à 278 000. Donc on peut voir pour une fin de carrière au-dessus des 200 000, à voir après ce que ça va donner, mais effectivement, légère déception. Un autre démarrage qui reste dans le top 10, c'est Et la fête continue, donc la sortie de Diafana, si je ne me trompe pas, qui ouvre avec 61 000 entrées.
Le Robert Guédigan.
Oui. C'est le 7e meilleur démarrage pour ce réalisateur, au-dessus de Twist à Bamako, qui lui finissait à 130 000 entrées, donc à voir ce que ça va donner.
Alors c'était son dernier film, Twist à Bamako, mais c'est vrai que généralement, Guédigan, en moyenne, il tourne à 125 000 en opening weekend, et c'est vrai qu'il va chercher, il est capable d'aller chercher du 450 000, ça va être plus compliqué pour celui-là.
Absolument. Merci Julien pour ces précisions. Au niveau des autres démarrages, peut-être que quelqu'un veut rajouter quelque chose.
Ouais, je vais rajouter rapidement, c'est vrai, des déceptions malheureusement, hein, mais que ce soit Vincent doit mourir avant que les flammes ne s'éteignent ou aussi Little Girl Blue, Gueule Noire bien sûr, dont on parlait la semaine dernière, on ne peut pas dire que ces films aient brillé, même si on peut quand même souligner que Vincent doit mourir, exposé sur beaucoup moins de copies, se distingue du lot, tout comme le film How to Have Sex, qui lui a réussi à atteindre les 200 de moyenne par copie, ce qui est déjà une belle performance.
Ouais, ce qu'on voit, c'est que la semaine dernière, il y avait énormément de sorties, en fait, et du coup, les sorties qui sortent du lot sont celles qui sont sorties sur le moins de copies, parce qu'elles attirent des très belles moyennes.
Et là, j'attire l'attention de tous les producteurs qui nous écoutent, hein. Ne demandez pas systématiquement à sortir sur trop de copies, parce que derrière, eh bien, on voit que la moyenne par copie n'est pas forcément à l'avantage ces derniers temps de ceux qui sortent sur très large combinaison.
Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est qu'on voit la très bonne tenue de Simple Cam Sylvain qui fait une chute très très limitée cette semaine. On en a parlé la semaine dernière, il avait une excellente moyenne par copie et c'est encore le cas cette semaine et une belle carrière pour ce film pour l'instant.
Exactement, c'est un peu comme Sylvain, c'est un peu la bonne surprise, je suis d'accord avec toi, dans un océan, et je parle pas de flot, de déception. Voilà, alors donc c'est ce qu'on pouvait dire sur ce box-office. Un mot peut-être pour vous du côté de cette programmation, je sais que vous avez fait beaucoup d'avant-premières, est-ce que vous avez justement des échos de nombre de copies qui aura sur le film, un peu comment ça va sortir, vous avez, qu'est-ce qui vous a marqué d'ailleurs, peut-être des salles que vous retenez dans ces avant-premières ?
Le truc que je découvre, c'est que le nombre de copies, on l'apprend vraiment super tard.
Exactement. Le lundi, c'est nouveau, tout précède de la sortie. Ouais.
Ouais, bon, enfin, c'est nouveau. J'avais fait un long métrage il y a 20 ans et on, comme c'était encore des pellicules chimiques, on savait très très en avance le nombre de copies.
Ah là, maintenant, c'est
là, c'est vraiment la dernière minute. Ouais. Ouais.
Et une salle qui vous a marqué sur la tournée où vous êtes
En fait, il y a toutes les salles où j'ai fait l'avant-première, j'ai eu la chance qu'elles soient complètes. Et donc, en fait, je garde un bon souvenir étonné à chaque fois qu'il y a autant de monde qui vienne. Et j'avoue que il y en a pas plus une qui sort du lot qu'une autre. J'étais à chaque fois ravi de faire ça, même si c'est exténuant, mais de rencontrer un public qui a été vraiment enthousiaste autour du film et qui restait là à poser des tas de questions. À chaque fois, les exploitants de chaque salle me disaient « Oh, c'est bien, ce soir, ils ont posé plein de questions et tout. » Moi, j'étais là, c'est normal, non ? Apparemment, pas du tout. Donc, j'ai fait le prétentieux sans le savoir. Mais parce que moi, j'ai maintenant, ça y est, j'ai pris cette habitude que ce soit complet et que les gens posent plein de questions. Mais je sais que, d'après ma distributrice, il ne faut pas le prendre comme argent comptant. On ne sait jamais. Mieux vaut rester prudent sur l'avenir du film en salle pour de vrai. Et c'est sur 186
salles. Oui, on est dans salles. Les un peu plus de 180 pour l'instant.
Ouais. Et voilà. Je crois que ce qui est visé, c'est quand même d'abord les villes. C'est quand même le public citadin qui vise dans un premier temps avec un rayonnement potentiel sur plus de cinéma derrière ou des sorties décalées dans des cinémas un peu plus...
Ça s'appelle le cinéma bis, c'est ça?
Alors, le cinéma, en tout cas, aller davantage peut-être dans des villes, dans les plus petites villes,
oui,
ou des zones rurales, on verra. Mais je pense qu'effectivement, le film peut avoir une longue carrière. On vous le souhaite en tout cas.
Merci.
À noter que chaque semaine, on fait un petit sondage Twitter, enfin X, sur lequel on met 4 sorties en avant. Cette semaine, c'était Napoléon, Mars Express, L'Arche de Noé, La Vénus d'Argent. Eh bien, en tête, on a Napoléon, le film de Ridley Scott, avec 49% d'intention d'aller en salle le voir. Et deuxième, Mars Express avec 27%, suivi de L'Arche de Noé et La Vénus d'Argent. Donc on vous retrouvera peut-être au 9h des Halles mercredi, puisque nous serons une fois de plus là-bas pour un peu voir comment les films démarrent. Là, vous êtes à quelques minutes maintenant du lancement de l'avant-première ici. Juste vous dire également que la semaine prochaine, vous aurez en tout 16 nouveautés, donc 15 concurrents à Mars Express, puisqu'il y aura, outre ceux que j'ai déjà cités, Je ne suis pas un héros, distribué par Panam Distribution, Rien à perdre, distribué par Ad Vitam avec Virginie Efira, L'Arche de Noé, c'est UGC qui le sort, La Vénus d'Argent, c'est Pyramide, Jour de Fête sort Testament, le nouveau film de Denis Arcand, Eurozoom sort un film d'animation pour jeune public, La Course au Miel, Nour Film sort Un Hiver à Yanyi, Météor Film sort La Rivière, Tamaza, Le Poireau Perpétuel. Alors là, je n'ai plus le nom de distributeur. C'est les films du Whippet, bien sûr, qui sort. Capellito fait son cinéma. Là encore, c'est du jeune public. Et après, sur moins de 10 écrans, donc c'est toujours le débat, est-ce que ça compte ou pas. Mais moi, je vous les cite quand même parce qu'ils sont cités nulle part. Du côté des films de l'Atalante, Le Journal d'Amérique, Le Monde d'Après chez Bon Voyage Film, Tous résidents dans l'âme chez Excuse, voilà, bref, Enorita Na America. Et bref, ça fait beaucoup de monde. Voilà, vous l'aurez compris. En tout cas, on vous remercie très chaleureusement d'avoir été là pour ce podcast, encore une fois enregistré à l'UGC Ciné-Cité La Défense, qui est ce soir plein pour l'avant-première de votre film.
Et on est là pour.
Et vous êtes bien. Voilà. Donc vous êtes tout juste à temps. Tout va bien. Donc on vous laisse, on vous libère. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas le temps pour le quiz. J'en suis désolé, Max. Mais on le rattrapera la semaine prochaine. Merci encore.
Merci.
Et à très vite sur Débrief Film.
Merci.
À bientôt.